9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, s'il vous plaît, coucouche panier, les portables dans le panier. Allez hop, monsieur Marty, monsieur Manigold, madame
Joël.
Tu peux lui faire un petit bisou si tu veux. Vous savez pourquoi?
Oui, parce que j'ai un nouveau portable.
Elle a son nouveau.
C'est son doudou.
Non mais les ceux qui nous écoutent, calmez-vous, hein, c'est l'iPhone 11. Hein, mais...
L'arrêt de dénoncer.
Mais il est très bien, t'as raison.
Alors, la suite des réjouissances dans les GG. Vous avez envie de parler des téléconsultations. Apparemment, la téléconsultation, ça permet d'obtenir des arrêts maladie assez facilement. Téléconsultation en médecine, progrès ou dérive? On a deux équipes, dérive pour Joël et Olivier, progrès pour Stéphane et Jérôme. Et venez en discuter avec les grandes gueules. Tout à l'heure, on aura les indiscrets aussi à 11h-20 avec la rentrée parlementaire qui arrive. Et on a deux personnalités qui seront aux abonnés absents, Adrien Quatennens et Julien Bayou.
Si, ils seront là, mais ils n'auront pas le droit de parler.
Ben, ce sera dans les indiscrets. On va vous raconter les coulisses du retour au Palais Bourbon.
Silence. Du coup, silence pour la France.
Attends, je l'ai. Bouge pas.
Silence pour la France.
Voilà, il est là. Parlons du recrutement de ces secteurs qui vont chercher de la main-d'œuvre. 4,5 millions de postes à pourvoir en France là, sur les 12 prochains mois. Est-ce que les recruteurs vont arriver à trouver ces 4,5 millions de salariés? 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC, les grandes gueules.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
Dans les 12 prochains mois, c'est une étude Adecco, 4,5 millions de recrutements attendus. 43% des recrutements seront en CDI.
Oui, alors ça va être un casse-tête parce que régulièrement ici, dans cette émission, on pointe du doigt le fait que les employeurs ne trouvent pas justement leurs futurs employés. Et là, il y a 4,5 millions de recrutements attendus dans des métiers. Alors ce sont toujours un peu les mêmes, les métiers de la restauration, de la logistique, la comptabilité également. Et d'ailleurs, l'étude Adecco a établi le top 10 des métiers avec les plus fortes pénuries en volume. En premier, on a le service en restauration. En deuxième, le personnel de cuisine. Donc ça, c'est pour Manigold. Ensuite, troisième, relations technico-commerciales. Quatrième, personnel polyvalent en restauration. Là aussi, encore pour Manigold. Mais il y a la comptabilité. Par exemple, pas de comptable. La comptabilité, il y a entre 25 000 et 50 000 ressources qui font défaut sur le marché de l'emploi en France. On regarde des besoins de recrutement. Il y a aussi la logistique, la préparation des commandes. Bref, il y a du boulot. Va-t-on faire pour trouver des gens dans ces métiers?
4,5 millions de postes, 32-16 pour témoigner avec les GG.
Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont fumé à Adecco, mais ça doit être de la bonne. Hein.
Pourquoi?
Ben parce que tout d'un coup, on nous prévoit plus qu'une embellie, quoi, une amélioration de tout. Sans doute, le conflit Russie-Ukraine va-t-il s'arrêter? Le choc climatique, ça va aller beaucoup mieux? L'inflation va diminuer aussi? Enfin, je veux dire... Est-ce que Adecco avait prévu la crise qu'on a vécue justement sur l'emploi sur l'année qui vient de passer, sur le fait que la plupart des entreprises fonctionnent en mode dégradé, et c'est le cas dans la santé, et tout d'un coup on nous dit embrassez-vous Folleville, il va y avoir 4,5 millions emplois.
Tu crois pas à toi.
Tu sais pas s'il va être
pourvu.
Je crois pas du tout.
En tout cas dans mon secteur, tous les hôpitaux, toutes les cliniques quasi de France, le médico-social fonctionne en mode dégradé, c'est-à-dire qu'il leur manque des infirmières, des aides-soignantes, etc.
Tu confirmes l'étude?
Mais je confirme l'étude. Est-ce qu'il va y avoir une embellie dans ce secteur qui vont faire que tout d'un coup, ces postes qui sont devenus non attractifs et qui ont fait que ces gens-là sont partis? Parce que je vous rappelle que le personnel, on l'avait. Les hôpitaux fonctionnaient avec le personnel. Et le personnel, là, on a vécu quoi? On a vécu un départ d'infirmières, d'aides-soignantes, de médecins, etc. Parce que les conditions de travail et les salaires et les rémunérations n'étaient pas au niveau des rôles et des responsabilités.
Les postes sont à pourvoir, toujours.
Mais comme rien n'a changé.
Ah bah oui.
Rien n'a changé sur l'attractivité du métier.
D'accord.
Rien n'a changé sur les rémunérations, etc. Et tout d'un coup, on va avoir un afflux, on se fout de qui, là?
Stéphane. Mais justement, Jérôme, tu dis ça, mais c'est nous, leaders syndicaux, qui devons patronale, qui devons redonner de l'attractivité à nos métiers. Moi, je suis plutôt confiant.
C'est bien ce qui m'inquiète.
Je pense que, effectivement, il faut d'abord qu'on balaye devant notre porte, et moi, je commence à le faire dans la restauration. Par exemple, je considère que lorsqu'on adhère à un syndicat patronal, lorsqu'on a un comportement...
Tu es président de l'UMI en Ile-de-France.
Voilà. Oui. Eh bien, moi, je souhaite qu'on intègre des cas d'exclusion lorsqu'il y a un manquement grave, lorsque de façon répétée un professionnel parle mal. Tu sais, moi je fais le tour de France aujourd'hui de mes confrères. Je suis allé à Lille, je suis allé dans le Morbihan, je suis allé en Alsace, Colmar, Strasbourg. Je fais le tour de France de tous mes confrères. Et ce que je note, c'est que mes confrères, ils sont à bout. Mais dans tout secteur, traiteur, j'ai eu un échange émouvant dimanche à 10h du matin. Il me dit, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et aujourd'hui, on voit des chefs d'entreprise, des artisans qui n'en peuvent plus. Oui. Parce qu'ils gagnent moins que leurs salariés. Parce qu'ils travaillent 18 heures par jour. Parce que la pénibilité, elle est là aussi pour eux. Et moi, je le dis à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ils n'arrivent pas à recruter. Un chef d'entreprise, c'est pas le patron du CAC 40. C'est aussi un artisan qui a les pieds dans la boue.
Pourquoi les gens
et c'est aussi quelqu'un quoi, qui a une vie de famille, qui a des enfants, qui a un moment
d'accord,
aussi.
D'accord, pourquoi les gens veulent plus bosser?
Pourquoi
les gens veulent plus bosser?
C'est mon coup de gueule. C'est mon coup de gueule dans les GG vis-à-vis de Pôle emploi qui a découlé sur une réforme. C'est quoi? C'est qu'à Paris, il y a 5000 personnes qui cherchent du travail en cuisine, 5000 qui cherchent du travail en salle. Ils sont protégés aujourd'hui par Pôle emploi. Ils ont le parachute social qui s'appelle l'indemnisation chômage. Et moi, je les avais appelés, les mecs, ils disent « Non, mais rappelez-moi plus tard ».
Ah oui,
mais c'est insupportable, cette situation.
Droits, en fait.
Mais oui, mais rappelez-moi plus tard, je préfère rester à la maison, j'ai droit au chômage. Ouais. Au même titre que quand un salarié te quitte, on en parlera tout à l'heure, il te dit « je vais me mettre en arrêt ». C'est-à-dire qu'il n'a même pas vu le médecin qui te dit déjà qu'il va être en arrêt. Il faut changer la mentalité. Et il faut que toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui j'espère qu'ils ne sont pas nombreux sur RMC, mais qui profitent de la solidarité nationale, qui se disent une chose, c'est à cause d'eux que le système va craquer. C'est à cause d'eux que demain, ceux qui seront vraiment les plus démunis, ceux qui en auront besoin, eh ben, seront victimes de ceux qui abusent. Ça suffit au travail. Il y a 4 500 000 personnes qui cherchent. Nous, on le recrute. Venez nous voir et vous verrez que vous trouverez votre place.
Joël.
Non, t'avais bien commencé, c'était bien. T'avais commencé à parler de l'attractivité des entreprises, justement, qui doivent travailler sur leur attractivité. Puis après, t'es reparti encore à accuser les Français de fainéants.
Mais les Français.
Enfin, une partie, en tout cas,
ceux qui profitent d'un système,
ceux qui profiteraient du système. Moi, je vis aujourd'hui. Je bois du petit lait parce que je me rappelle qu'il y a plusieurs années, et je crois que c'était à l'élection d'Emmanuel Macron. Je pensais réellement qu'il allait agir
la
sur
première,
le chômage, etc. La première,
bien
sûr.
Bah, le chômage
première.
A baissé depuis que Macron est là.
Tout à fait. Et je rêvais d'une situation où les salariés seraient en force, justement. Et on arrive à ça. On arrive à ça. Et on va arriver à justement ce que dit très bien Stéphane, à des entreprises qui vont devoir travailler sur leur attractivité. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Moi, j'aide beaucoup. Là, on me présente comme coach de vie, mais il faudrait plutôt dire coach de vie au travail parce que je ne fais que ça. Je n'aide que des salariés à évoluer professionnellement.
Exactement,
à se reconvertir aussi. Et qu'est-ce que je regarde? Je regarde qu'il y a encore des entreprises qui publient des offres d'emploi sans salaire. Elles pensent qu'elles sont encore en 1990 et qu'elles peuvent se permettre de publier des offres sans faire apparaître le salaire parce que, oh, mystère, oui, je vais quand même postuler et je vais voir. Mais il n'y a plus personne qui postule à une offre sans salaire. Il faut afficher le salaire dans l'offre. C'est terminé et t'en as encore qui continuent à postuler ce genre d'offres. Pareil, les atypiques, les seniors, tout ça. T'as encore des entreprises qui font la fine bouche à dire ouais mais le parcours atypique non moi machin non. il va falloir quand même travailler comme l'a dit Stéphane sur l'attractivité et sur le genre de profil que vous mettiez de côté avant et qu'il va falloir aller recruter.
Joël,
je suis désolée.
Oui, on sera en période de plein emploi, je comprends ton discours Joël, on serait dans des pays où qui sont à 3% de chômage comme en Allemagne ou aux États-Unis et on est en 7% de chômage. C'est un discours qui est peut-être effectivement sur certaines professions etc, il faut revaloriser, mais sincèrement, il y a quand même un qui profite du système. Enfin, on en connaît tous.
Mais t'es en besoin.
J'ai le droit au chômage. Le problème, c'est qu'on a un système où finalement, tu touches plein pot ton chômage au départ, et puis en plus, c'est dégressif. Si tu faisais l'inverse, c'est-à-dire qu'au début, tu touches rien, je suis sûr que certains seraient pas là à se dire, je vais profiter un peu, tu comprends,
Joël.
Mes enfants, mes vacances. Et après, effectivement, s'ils ont des difficultés à retrouver, dans ce cas-là, tu les indemnises.
Joël, est-ce que valablement.
Mais là, on a quand même un système qui favorise un peu quand même l'attente.
Joël, est-ce que valablement, dans nos secteurs, que ce soit le bâtiment, l'hôtellerie, la restauration, lorsque t'as même pas besoin de traverser la rue pour trouver un travail, lorsque sur le même trottoir tu trouves du boulot, est-ce que valablement tu peux protéger quelqu'un pendant 24 mois? Moi je suis vraiment pour protéger ceux qui en ont besoin, là où il n'y a pas de débouchés, là où il n'y a pas. Mais à un moment, il faut aussi régler le problème de la contradiction qu'on peut tous avoir. Ça s'appelle le prix. Ça s'appelle le prix. On parle d'attractivité. Dans mon métier, il y a des établissements qui sont ouverts 7 jours sur 7. Est-ce que demain, on est capable, nous, consommateurs, d'intégrer qu'il n'y aura plus d'établissements ouverts le samedi et dimanche au nom de l'attractivité, au nom du droit au repos? Est-ce que les hôtels, ça va avoir des impacts?
Non, mais excuse-moi, Stéphane.
Mais pareil pour les hôpitaux. Non, mais les hôpitaux, c'est la même chose, c'est ouvert 365 jours sur 365 et c'est la même chose.
Je vous écoute depuis tout à l'heure, mais le débat qu'on a, c'est 4,5 millions de postes à pourvoir en France, Paris impossible. Qu'est-ce qui va changer entre aujourd'hui et demain?
Réforme du chômage.
Tous ces gens, tu as
réforme l'assurance chômage.
Réforme l'assurance chômage. Les 5000
tu réformes l'assurance chômage, c'est ce que veut faire le gouvernement.
Mais sauf qu'on n'a pas le détail véritablement de cette réforme.
On l'a bien compris. Hein.
Et donc, on ne sait absolument pas
clair.
Si elle va vraiment porter ses fruits ou autre, quoi. Moi, j'ai la faiblesse de croire qu'on sera au même point. Je vous donne rendez-vous dans un an au tas de sable. Je suis persuadé que dans un an, on sera exactement au même point.
Non. Alors, on va écouter Cédric qui veut témoigner. Il nous appelle de Vendée. Bonjour, Cédric.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce que vous pensez qu'on va arriver à trouver ces 4,5 millions de salariés alors?
Ah ben, si les entreprises font des efforts de salaire et de conditions de travail, évidemment que oui.
Pourquoi? Expliquez.
J'étais dans la restauration, j'ai travaillé 15 ans en restauration et ma maman était aide-ménagère.
Ouais.
Et tous les deux, il y a deux ans, on a quitté donc chacun notre poste pour aller dans l'industrie. Une industrie de maroquinerie grand luxe, en Vendée, et on n'a jamais été aussi bien qu'ici, en fait, tout simplement. Conditions de travail super, horaires formidables, salaire formidable. Donc, en fait, dès qu'une entreprise fait des efforts pour les salariés, eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci de recrutement.
Ça s'appelle le RSE, oui. Recherche, environnement et social.
Allez-y.
Et franchement, on n'a jamais été aussi bien, comme je dis, hein, vraiment.
Vous faites quoi alors aujourd'hui du coup dans la maroquinerie, dans le luxe là alors?
Eh bien, on crée des sacs de luxe pour une grande entreprise.
Oui.
On est 1000 salariés, on recrute 10 à 15 personnes par mois.
Waouh. Et à quel type de poste alors?
Maroquinier, donc piqueur, colleur.
Et vous trouvez?
Ah ben oui, mais c'est tout le temps, parce que les conditions sont formidables.
C'est-à-dire, expliquez-nous ces conditions de travail, alors dites-nous, et puis le salaire et la manière dont vous travaillez.
Alors c'est 33h30 par semaine,
oui.
1800 net, on a une prime trimestrielle d'à peu près 200 euros, et on a une prime annuelle, moi j'ai eu 15 000 euros l'année dernière.
L'intéressement?
C'est très très intéressant en fait.
Et c'est l'intéressement, les 15 000 euros?
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est cher, mais
1000 euros, ça peut aller jusqu'à 20 000 euros. Enfin voilà,
Mais là, Alain, on est dans un secteur qui est très spécifique. On est un secteur où tu payes très cher un produit. Et la question aujourd'hui dans la restauration, est-ce qu'on est capable de considérer que le menu du jour à 19 euros, on va le payer 36 demain? C'est la question aussi qu'il faut se poser, parce que tout le monde nous dit il faut payer plus. Mais oui, mais à un moment, il faut que l'entreprise rende du chiffre d'affaires, rende du résultat pour pouvoir redistribuer.
Oui, mais c'est une espèce de cercle vicieux. Alors certes, Cédric, il est dans une niche effectivement.
Et on est en pleine campagne,
Voilà, du côté de la Vendée. En plus, vous avez le cadre de vie, vous gagnez très bien votre vie, vous avez de l'intéressement. Mais si ces entreprises ne trouvent pas, elles ne pourront pas se développer. Si elles ne peuvent pas se développer, elles peuvent pas faire de chiffre d'affaires, d'intéressement, de revenus, de bénéfices et mieux payer leurs salariés. Et au contraire. Elles peuvent aussi mettre la clé sous la porte.
Il y a la condition générale dans mon groupe. Nous, on n'a pas de problème de recrutement. Nos collaborateurs, et je l'espère, et ils nous écoutent, ils sont a priori bien dans l'entreprise. Je crois que le bien-être dans l'entreprise, c'est la première des préoccupations des salariés. Le salaire, il passe pas en premier plan. C'est d'abord dans quelles conditions je vais travailler. Est-ce qu'on va me respecter? Est-ce que quand le patron il passe, il va me dire bonjour? Est-ce que il va avoir un petit mot à mon égard? Est-ce que au fond l'entreprise elle est humaine? Et ce que recherchent aujourd'hui nos salariés, ce sont des perspectives à 3 ans, à 5 ans. Ah. Ils ont besoin de voir que dans 3 ans, 5 ans, ils seront pas au même niveau
que le salaire.
Mais c'est ça, parce que en réalité, un salarié sur 4, mais c'est 1 sur 2 dans la restauration, ne quitte pas l'entreprise, ils quittent leur manager. Et donc, nous devons effectivement balayer devant notre porte et condamner lorsqu'il y a des
actes. Dans tous les cas, mon cher Cédric, ça continue de recruter 10 à 15 personnes par mois pour devenir maroquinier dans le luxe chez vous, du côté de la Vendée.
Oui, on critique beaucoup le grand patron Bernard Arnault, mais franchement...
Ah oui.
Alain et ses amis.
Oui, vous le fouez, avec une prime de 15 000 euros d'intéressement par an, je comprends effectivement, Cédric.
Oui, bravo.
L'industrie du luxe,
c'est vraiment exceptionnel. Et ma compagne qui est dans l'agroalimentaire, une grande entreprise également en Vendée, donc voilà, pour pas la citer, Sodebo, c'est la même chose. Ce sont des primes énormes et un cadre de, enfin, je sais pas comment dire, c'est des cadres familiaux, en fait, même si ce sont des grandes entreprises, les salariés sont pris en compte.
1800 euros net par mois, au fond, c'est pas non plus délirant. Moi, j'ai beaucoup de salariés qui sont au-dessus de ce niveau de salaire. Donc, on est bien,
oui, mais du côté de la Roche-sur-Yon, c'est pas le même niveau de vie du côté de la Roche-sur-Yon non plus.
Oui, c'est vrai. Super, voilà.
Ben oui.
Mais la Vendée, mais la Vendée est un territoire dynamique depuis longtemps.
Oui, oui. Merci, Cédric, de ce témoignage. Merci de ce. Merci à vous.
Dans un territoire, merde, je parle comme Ségolène Royal.
Dans un instant, Étienne. Tu voulais ajouter, vas-y, pardon.
J'ai oublié, pardon.
Bon, mais moi, juste un mot. Non, mais on s'en fout. Dans un instant.
Ah, bah, dis donc.
Étienne à Osgore dans les Landes, à tout de suite.
RMC. 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Et GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. On continue la discussion à propos de ces 4,5 millions de recrutements prévus d'ici les 12 prochains mois, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'année 2023. C'est Étienne qui veut en parler avec nous dans les Landes. Il est chef d'entreprise dans le secteur du ménage. Bonjour Étienne.
Bonjour à vous les Grandes Gueules.
Alors je regardais juste, en ce qui concerne le nettoyage des locaux, c'est peut-être votre secteur, Étienne, oui, 138 785 postes à pourvoir sur l'année, Étienne. Vous trouvez ?
Non. Ça fait 10 ans que je suis dans ce secteur. Ça a toujours été difficile. Moi, j'ai personnellement jamais licencié quelqu'un parce que quand on se sépare d'une personne mais qu'il y a du travail, pas forcément faut en prendre une autre. Donc on n'a aucun intérêt à séparer d'une personne. On a toujours ce stéréotype du patron qui se sépare des gens mais s'il n'y a aucun intérêt. Ouais. Et ce que j'aimerais dire, j'aimerais qu'on gère un peu plus peut-être les salaires, avec peut-être un tableau Excel pour que les gens comprennent un petit peu. C'est que nous, finalement, entre ce qu'on donne et ce que les gens reçoivent, il y a un monde. Et pourquoi on n'essaierait pas ? Soyons fous, soyons un peu libéral, un peu plus qu'en ce moment. Au lieu de donner, on augmente les salaires de 600 euros. Par contre, en contrepartie, on baisse de 600 euros les charges. Tout de suite, on fait ça. On essaye. 600, ça peut être 700.
Bien sûr.
On essaye, on l'a jamais fait. Ça fait 40 ans qu'on assiste les gens. Plus on assiste les gens, plus ils sont assistés. Et ils sont dans un système. Moi, j'ai des personnes pleines de bonne volonté. Elles travaillent en CDI à l'année. Comme on est dans une région touristique, je leur propose d'augmenter leurs heures de travailler les samedis, parce que forcément dans la région touristique on travaille le samedi. Je leur propose 500 euros net en plus en travaillant 4 samedis. Ben, ils me disent non, parce que du coup je vais perdre cette aide-là, donc ça m'intéresse pas de faire du ménage pour perdre toutes mes aides. Et je les comprends.
Par exemple, Étienne, soyons, vous êtes concret, mais je voudrais revenir à votre entreprise. Là, oui. vous cherchez combien de personnes, par exemple, en soi?
Alors, à ce jour, je suis même retourné sur le terrain parce qu'il nous manque du personnel. Alors que j'ai 20.
Étienne, il vient de monter dans. Étienne, on vous a perdu là. Étienne, vous êtes monté dans votre voiture ou vous êtes monté sur votre scooter? Bon, Étienne, on va vous retrouver, vous allez pouvoir
expliquer
précisément.
Ce qui est intéressant dans ce que dit Étienne, c'est que, évidemment, plus l'État va baisser son niveau de prélèvement obligatoire tel que les charges sociales et les charges patronales, nous on va le redonner. En réalité, ça existe un peu déjà. Avec l'allègement Fillon jusqu'à 1,6 fois le SMIC, nous avons des allègements sur les charges. Je pense que ce plafond n'est plus adapté aujourd'hui à l'inflation, au manque de pouvoir d'achat, aux nouvelles attentes des salariés. Et à mon sens, il faudrait le rehausser au moins le plafond Fillon actuel qui propose justement des allègements, qui en réalité est un plafond de verre à mieux payer. Parce que quand tu donnes ne serait-ce que 100 euros de plus que ce plafond, eh bien il faut le rehausser à mon sens à 2,5 par exemple. C'est-à-dire que 2,5 fois le SMIC, tu as les mêmes allègements que les allègements Fillon.
Qu'est-ce qu'on appelle personnel polyvalent en médecine ou dans les hôpitaux et autres? C'est quoi? Parce que là aussi, on recherche justement, Monsieur Jérôme Marty, personnel polyvalent.
Il y a SH, hôtellerie-restauration au sein des établissements, quoi.
C'est des milliers de personnes qu'on recherche,
mais c'est des milliers de personnes.
Mais c'est des petits salaires.
C'est des tout petits salaires, ouais. C'est-à-dire des tout petits salaires, ben c'est le SMIC, quoi.
Ouais.
Mais avec une pénibilité de travail qui est très importante, quoi. Les aides-soignantes, c'est pareil. C'est des petits salaires avec une pénibilité extrêmement importante. Et moi, je vous le dis, je suis inquiet parce que je ne sais pas du tout qui va vous soigner demain. Je vous le dis de façon tout à fait grave et réfléchie. Encore une fois, on est dans un secteur qui fonctionne à 100% de ses possibilités. On peut pas, on n'a rien à vendre. On ne peut pas augmenter le nombre de patients qui sont dans nos établissements ou dans nos cabinets. Et on voit bien que les personnels qui restent s'épuisent de jour en jour. On est dans une espèce de cercle vicieux qui fait que ceux qui restent s'épuisent et donc au final partent ou tombent malades. Et tant que le gouvernant n'aura pas pris la décision d'augmenter de façon substantielle les rémunérations des professions du soin, on en sera là. Et là, c'est pas un problème de charge ou autre, c'est un problème de décision politique.
Oui, mais attends, il y a le Grenelle de la santé,
mais c'est notamment pas suffisant, enfin, puisque ça n'a pas. C'est notamment pas suffisant, puisque ça n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché l'hémorragie de personnel que l'on connaît.
Mais ce que dit Jérôme est corroboré avec les cadres. On a tous vu ce sondage qui dit que 6 cadres sur 10 estiment travailler plus depuis un an. C'est effectivement les cadres qui aujourd'hui travaillent beaucoup plus parce qu'on a du mal à recruter, entre guillemets, les main-d'œuvre les moins qualifiées. Et en même temps, on a inscrit au-delà des 24 mois des personnes qui recherchent un travail depuis plus de 24 mois, c'est-à-dire la catégorie 3 de Pôle emploi, on a plus de 300 000 personnes qui sont totalement éloignées du marché du travail. Ces personnes-là, il faut les réintégrer, il faut leur proposer des formations.
C'est plus long.
Justement, mais c'est plus long, mais ça veut dire qu'avec les régions, nous devons, les présidents de région, l'État, nous devons intégrer ces
avant de se retrouver dans des situations où des gens, effectivement, ont décroché de l'emploi depuis trop longtemps et c'est très compliqué de leur mettre sur le marché, il faut arrêter avec ce système où tu fais du vagabondage, je prends un emploi, puis finalement j'arrête, j'ai des droits, donc je peux arrêter pendant 3 mois, je peux reprendre, etc.
Je crédite mes droits,
tous les chefs d'entreprise nous expliquent que le type, il vient un lundi, le mardi, il revient plus parce que finalement, c'est plus possible. On va pas pouvoir continuer comme ça.
Tu vois, Joël, vente et décoration et équipement du foyer. On cherche 40 000 personnes. Sécurité et surveillance privée, 50 000 personnes. Sécurité, les personnels de caisse. Les personnels de caisse. On cherche 50 000 personnes aujourd'hui,
mais,
Joël.
Tu sais, en tout cas, beaucoup de clients que j'accompagne, à chaque fois, ils me disent la même chose. Ils veulent partir, pas tellement à cause du salaire, mais parce qu'ils sont pas écoutés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut bien comprendre que le salarié, il a envie d'être écouté parce qu'en fait, il a une expertise et il a envie de participer quelque part. Il a envie de pas vraiment d'être câliné, non.
Non, mais
il veut.
Sincère, hein.
Il faut qu'on arrête de traiter en fait la personne en disant t'as été engagé pour ça. Alors tu fais ça et tu te la fermes. Et ça a été très longtemps comme ça.
Sûrement.
Alors que maintenant, le salarié, il se dit ouais, mais moi j'ai des idées. Déjà, je vois comment ça fonctionne. Des fois, j'ai une hiérarchie qui me donne des ordres. Ça n'a complètement rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Enfin, ils veulent plus. Non, ils ne
sont d'accord avec ça, mais à un moment donné, on est en train de passer d'un excès à un autre. C'est-à-dire, à force d'écouter le salarié, ses problèmes, etc.
Ouais, mais c'est pas des problèmes.
Dans une société, de toute façon, on est dans la société de l'individu, roi ou.
Non, c'est plus collectif. Le manager,
il a aussi ses contraintes, etc.
C'est vraiment abondé dans ce que dit Joël. Parce que tu as Steve Jobs, on a tous des iPhones, qui avait dit, lorsqu'il recrutait des cadres, je ne vous embauche pas pour vous expliquer comment vous devez travailler, je vous embauche pour que vous me montrez comment vous savez travailler et quel apport vous allez avoir à l'entreprise.
Exactement.
Nous, c'est exactement la démarche qu'on a dans le groupe. Nos salariés s'expriment quand ils ont des idées.
Mais
par exemple, sur des ventes additionnelles, on peut les challenger sur la façon de servir, d'accompagner le client, parce que la valeur.
Il n'y a pas non plus 50 façons de servir les gens. Tu peux
mettre des process en place. Il peut dire moi j'ai besoin d'un runner parce que je vais être plus efficace et je vais être concentré. Donc on les écoute en cuisine. Je vais prendre un exemple. Un de mes chefs voulait dans un amuse-bouche, donc c'est ce qui sert au début du repas. Il fait une cancoyote parce que c'est de sa région, une cancoyote maison. Je dis attends, tu vas nous flinguer le plateau de fromage arrière parce que si d'entrée tu commences avec du fromage, derrière les gens ne prendront pas du fromage. Ben je dis allez-y, on essaye pendant un mois et on verra ce que ça donne. Il a eu raison, on a maintenu. Donc c'est ça le projet participatif qu'attendent aussi demain les salariés.
Alors on va écouter Julien qui est mécanicien, qui est dans l'Essonne. Bonjour Julien.
Bonjour.
Je regardais là, tiens, dans votre secteur d'activité, si on cherche mécanique, automobile. Vous cherchez en ce moment ou pas ?
Alors, je ne suis pas dans l'automobile, je suis dans l'aéronautique, dans un grand groupe, français.
Lequel ?
Je préfère ne pas le dire.
C'est dommage, s'ils recrutent, c'est bon à savoir.
Oui, ils recrutent énormément, mais malheureusement, ils n'y arrivent pas. Et en plus de ça, les ouvriers qui sont actuellement en poste cherche soit à partir carrément du groupe ou des mutations dans d'autres usines.
Pourquoi ?
On avait, on va dire, des très bonnes conditions de travail. Mm-hmm. On a une bonne paye, tout ça c'est tout bon. Et en fait, le patron a décidé d'attaquer en fait les horaires et le bien-être du salarié au travail, soi-disant pour augmenter la productivité de l'usine.
C'est quoi les exemples concrets d'attaquer les horaires du salarié ?
Alors, ah oui, très bien. On travaille en 2-8. Donc, on avait une restauration directement à l'usine. sur place, exactement. On avait une cantine. Aujourd'hui, cette cantine a été supprimée, tout simplement. Donc, on est maintenant dans une pauvre, enfin, dans une salle avec des micro-ondes où on doit ramener nos gamelles, du coup.
On fait des économies sur le bien-être du salarié. Quoi.
Ça, alors ça, quand j'étais salarié, j'ai toujours trouvé parfaitement insupportable quand on venait nous voir en disant, ah, vous avez bu tant de café, vous avez machin. Et c'est bon. Bah ouais, bah, à un moment, c'est des économies de bout de chandelle. Et là, effectivement, c'est détestable comme position.
Exactement. Et plutôt de se préoccuper, on va dire, des problèmes internes de l'usine, donc, des problèmes d'organisation, des problèmes d'attente de pièces, par exemple. Ah, oui. On vient nous dire que c'est de la faute, en gros, des ouvriers si les chantiers n'avancent pas, alors qu'on attend des pièces pendant une semaine.
Ça, c'est le DRH qu'il faut aller voir. Hein. C'est peut-être lui qu'il faut changer. Hein. Parce que, comme on dit, les salariés ne quittent pas l'entreprise, ils quittent leur manager. Et là, c'est une décision du manager. Hein. Là, c'est le DRH qui a pris une sale décision. D'ailleurs, ce serait peut-être intéressant d'avoir son nom, enfin, le nom de l'entreprise, pour qu'on puisse lui passer clairement le message.
C'est un mauvais management, là, Julien. Alors que c'est une bonne boîte, quoi.
Moi, ça fait 10 ans que j'y suis. Donc, je suis avec des gens qui ont des 20 ans et des 30 ans de boîte. Et ces gens-là ont toujours été motivés, force de proposition. Aujourd'hui, ces gens-là, on n'avance plus dans le même sens que notre direction.
Est-ce que derrière, il n'y a pas cyniquement, justement, une stratégie, on veut se débarrasser des anciens, on les fait partir en enlevant des avantages, etc.
Le problème, c'est que dans le secteur où je suis, les formations durent longtemps.
Ah oui.
Parce qu'on s'occupe de la sécurité des vols quand même, de l'aéronautique, donc c'est pas rien. Donc c'est des formations assez lourdes et assez longues, donc malheureusement ces anciens-là ne vont pas pouvoir s'en séparer comme
bien
ça.
Bien sûr. Bah écoutez, Julien, merci de ce témoignage, vous aussi Julien. Bonne journée du côté de l'Essonne. Merci d'avoir été avec nous dans les GG, dans les Grandes Gueules. Je regarde conduite de transport de marchandises et ce qu'on appelle longue distance. En fait, on cherche des chauffeurs, quoi.
Ouais.
80 000 postes à pourvoir en ce qui concerne les chauffeurs. Et pour corroborer ce que disait Étienne, les nettoyages de locaux, effectivement, 140 000 postes sont à pourvoir.
Mais j'aimerais voir le côté positif de cette pénurie aussi. Ah. Non, mais vraiment, il y a un côté positif. Pourquoi ? Parce que
on a le côté positif de la guerre.
Oui. Alors, non, le côté positif de la fin dans le monde.
Mais
Attention, c'est pas fini. Moi, je suis plutôt fier que post-Covid, les Français ont redécouvert les artisans français. Et ça a généré des accroissements d'activité absolument considérables pour les artisans de quartier. Du coup, ça a généré des besoins en main-d'œuvre. Et on a aussi cette tension.
Il y a eu des effets pervers, quand même.
Oui, la réindustrialisation en Europe et notamment en France, ça veut dire aussi qu'il faut des bras, il faut des managers, il faut de tout. Donc ça veut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, à mon sens. J'essaie aussi de voir le point positif.
On voit quand même que, parce que c'est d'ailleurs pas seulement un problème français, il y a la même chose aux États-Unis, on parle de grandes démissions, etc. Je suis d'accord qu'il faut réfléchir sur le sens du travail, le management, il faut le réformer. Néanmoins, après, il faudra pas se... On va rentrer dans une période de récession.
Espérons que les 4,5 millions là, de postes à pourvoir, ce soit pas une pensée magique.
Mais à New York, juste pour calmer un peu les gens. Puisque tu parles de New York, mes confrères restaurateurs à New York, ils ont eu l'obligation de passer de 7 dollars le SMIC à 15 dollars. C'est comme ça. Par contre, il y a une flexibilité. Le jour où ça se retourne, tu reviens à 7 dollars. Hein.
Allez, on va regarder justement, on vous a posé la question, 4,5 millions de postes à pourvoir en France en 2023. Est-ce que le pari peut être tenu ou est-ce que c'est le pari impossible ? Pari impossible, c'est ce que vous ressentez, hein, 70%. Ça part bien,
je pense.
Elle est bien enclenchée. L'optimisme.
En France, l'optimisme, c'est un truc qui est très barrageur.
Allez, dans un instant, les indiscrets GG avec Pierrick Bonneau et le service politique, la rentrée parlementaire de Adrien Quatennens et Julien Bayou.
Ah bon ?
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, avant de filer vers les indiscrets politiques avec Pierrick Bonneau, je vous rappelle l'événement tout au long de la semaine jusqu'à vendredi, la possibilité d'aller assister à un match de poule de Coupe du Monde Tunisie-France le 30 novembre prochain. On vous paye le vol, l'hébergement, les places pour aller au match pour deux personnes, plus les rencontres avec toutes les équipes d'RMC Sport sur place, Jérôme Rotten, l'équipe de l'After. C'est une inscription. Vendredi, c'est un tirage au sort. C'est d'abord une inscription. Vous m'envoyez RMC par SMS au 732-16. RMC par SMS au 732-16. Ensuite, le tirage au sort. Vous serez peut-être le regagnant qui partira au Qatar. Tout frais payé pour assister à Tunisie-France le 30 novembre prochain. À vous de jouer, à vous de gagner. On y va pour les indiscrets.
RMC, les grandes gueules.
Les indiscrets.
Les indiscrets GG avec Pierrick Bonneau du service politique d'RMC. Bonjour Pierrick.
Bonjour à tous.
On va parler de l'Assemblée nationale, des députés de la NUPES qui se réunissent cet après-midi. Ils préparent bien sûr la rentrée parlementaire. Enfin, tout sous presque, puisqu'on sait déjà que deux députés ne seront pas là tout à l'heure.
Indiscrétion RMC, ni Adrien Quatennens ni Julien Bayou n'ont prévu d'y assister à cette rentrée parlementaire. Il faut dire qu'on les imagine mal hein, s'asseoir à côté de leurs collègues et faire comme si de rien n'était. Le député LFI, je le rappelle, est accusé de violence physique contre son ex-compagne. Le député écologiste de violence psychologique. Comment voulez-vous que Julien Bayou vienne parler de la réforme des retraites ou encore du budget de la Sécu dans ces conditions ? Il est grillé pour des semaines, regrette l'un de ses soutiens, selon qui le député va avoir du mal à siéger dans l'hémicycle.
Dans tous les cas, ces deux affaires font tanguer la NUPES.
Et oui, car ces deux crises, coup sur coup, font ressurgir les tensions au sein de l'alliance à gauche. Ça va les faire redescendre un peu, les insoumis. Lâche un cadre du Parti communiste. Ils se croyaient tout permis depuis les législatives. Au moins, ces sales histoires auront le mérite de rééquilibrer les forces. Un député socialiste n'y va pas par quatre chemins. Moi, c'est très clair, je ne discute plus avec des élus qui ne sont pas capables de condamner, comme il se doit, les violences faites aux femmes. Bon, vous l'aurez compris, hein, l'ambiance risque d'être un peu tendue cet après-midi à l'Assemblée. Et il n'y aura pas de caméra pour filmer ça. Un séminaire qui aura lieu à huis clos. Seule séquence ouverte aux journalistes. Une conférence de presse ce soir où il sera uniquement question de la rentrée parlementaire, nous dit-on. Pas d'autres questions.
Et à droite, du coup, on en pense quoi ?
Vous imaginez bien que les adversaires de la NUPES se frottent les mains en ce moment, hein, même s'ils prennent tous bien soin de dénoncer les violences faites aux femmes avant de lancer leurs flèches. Ils nous ont tellement fait la morale, ils nous ont tellement fait la leçon, a réagi le président de Reconquête, Éric Zemmour, avec vous deux, hein, Alain et Olivier, hier soir sur BFM TV. Du côté du RN, on ne manque pas de sarcasme également. Hein. C'est ceux qui demandent votre démission dès que vous êtes garé en double file qui se font avoir. Ça leur apprendra, ça vous approche de Marine Le Pen.
On pourrait faire un groupe fantôme à l'Assemblée nationale, les députés fantômes, parce qu'on pourrait y mettre effectivement Quatennens, Bayou, Damien Abad. Je rappelle que Damien Abad est toujours député et qu'on on le voit plus, on l'entend plus. C'est assez. Non mais ça pose au-delà de la vanne, ça pose quand même un problème parce que effectivement ils peuvent rester députés, d'autant plus qu'ils ne sont pas condamnés, aucun des trois par exemple. Il y a des poursuites, il y a la justice, mais il n'y a pas de condamnation.
Sur Adrien Quatennens, je suis un peu plus mesuré que les autres. Oui. La présomption d'innocence s'applique aux deux autres. Au premier, non. D'accord, il a reconnu les faits. Oui, et juridiquement, à mon sens, il sera condamné.
D'accord, mais ils ne sont pas condamnés à rendre leur fonction de député, donc ils ont le droit de siéger. Joël. Et en même temps, on leur dit de se taire. Ça crée quand même quelque chose de particulier.
Et ils ne viennent plus, on n'a pas croisé Adrien Quatennens à l'Assemblée depuis 15 jours.
Ouais, c'est ça me gêne qu'il soit planqué avec mes impôts. Ça me gêne fortement. Donc, c'est soit tu démissionnes, et puis c'est normal que tu ne sois pas à la rentrée parlementaire, soit tu es encore député et tu es à la rentrée parlementaire. Alors, tu n'es pas obligé de t'exprimer au micro de l'Assemblée, mais tu peux au moins être présent parce que là, quand même, tu es payé.
Il y a une troisième voie quand même. Ça s'appelle donc, dans une entreprise des congés sans solde. Ils pourraient, à minima, en termes de décence, puisqu'ils se mettent en retrait, de ne pas profiter de
ça.
Ça devrait, en tout cas.
Sandrine Rousseau proposait que le suppléant prenne la place, mais ce n'est pas possible non plus.
C'est pas possible.
Provisoirement, le congé sans solde, ça n'existe pas. Mais ils ont des congés, les députés, comme tout le monde. Donc ils doivent pouvoir avoir des congés sans solde.
Parlementaire.
Non, mais on est dans un vide juridique et c'est normal puisqu'on s'exprime avant la justice.
Et ils sont quoi, rappelle-moi, ils sont députés, donc a priuri ils peuvent changer les textes pour que ce vide juridique soit compensé.
Mais ils bossent pas parce qu'ils peuvent pas assurer la représentation, parce que sinon on peut leur reprocher des choses, etc.
Tu peux être condamné et rester député.
Alors tu sais que.
Mais là, après.
Par exemple, on a des élections dans notre syndicat, tu dois produire un casier judiciaire vierge et être privé de... les syndicats, c'est le cas.
Pour
une carte de presse aussi. Et t'imagines, pour être député, t'as pas besoin.
C'est quand même fou, ouais.
Enfin, là, il y a, en ce qui les concerne.
C'est compliqué, là. Parce qu'en plus, c'est pas n'importe qui. Quatennens, c'était quand même le bras droit de Mélenchon. Et Bayou était le président du groupe des écologistes à l'Assemblée nationale.
Co-président,
oui, parce qu'effectivement c'est un homme et une femme.
Et puis il y a, enfin, les deux cas sont bien distincts, quoi. C'est-à-dire il y en a un, c'est une affaire 100% privée. Il a été balancé en ce qui concerne Julien Bayou, en ce qui concerne
Adrien. La gifle, c'est lui qui l'a dit.
Je parlais de Julien Bayou. Et puis en ce qui concerne Adrien Quatennens, c'est une main courante qui a fuité. Et derrière lui, il y est allé de, si tu veux, d'une confession écrite. Et pour toi, un homme qui a giflé sa femme et qui l'a reconnu, n'a pas sa place à l'Assemblée nationale, Joël?
Non, je suis pas pour.
Mets-toi devant le micro.
Je suis pas pour qu'on fasse démissionner les gens. Je suis pour qu'ils prennent ses responsabilités. Et bien sûr, j'aurais préféré que lui-même se retire, mais complètement. Je veux dire, qu'il lâche le salaire et tout. Hein. C'est pas le petit retrait, je reste à la maison et je suis payé. Hein.
On verra ce qui sort de.
Ces deux affaires bien différentes, mais qui ont eu les mêmes effets pour l'instant.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'elles sont assez différentes.
Elles sont très différentes, rappelons-le.
L'honneur, ça se fractionne pas, quoi. Où tu vas au bout, mais tu prends pas de demi-mesure.
Oui, mais il y a eu un ministre, il y a eu un député En Marche qui est resté pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Il avait pourtant tapé à coups de casque un de ses collègues. Il a d'ailleurs été condamné. Il est resté. Alors, il n'était plus dans le groupe En Marche, mais il est resté à l'Assemblée nationale.
Mais c'est ce qu'on dit. Quand t'es condamné, tu lâches ton poste. Au moins,
Merci, monsieur Pierrick Bonneau. À demain, Pierrick.
À demain.
On y va pour le quiz des GG.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Ma chère Anaïs, bonjour.
Bonjour.
C'est bon, c'est réservé pour midi, on sait où on déjeune.
Exactement, ouais, ouais.
On y est combien?
On est 7.
Ah, quand même.
Ça annonce sans le pâté, hein, on n'a pas été invité. Hein.
Les GG, qu'a testé hier Valérie Pécresse qui lui a valu d'être moquée sur les réseaux sociaux? Quoi, vous n'avez pas vu ça?
Ah si, une chaise pour monter les escaliers.
Exactement, un monte-escalier électrique installé dans un HLM d'Île-de-France. Instant capturé par la caméra de BFM Paris. On regarde, on écoute et je vous explique après.
C'est quand même assez technique, là, on sent que...
Il faudra une minute à Valérie Pécresse pour monter cet étage. Installée dans le Vertimove, ceinture attachée, la présidente de la région Île-de-France découvre le mécanisme de ce monte-escalier électrique.
Alors je vous explique, on voit Valérie Pécresse sur les images de BFM Paris, un peu affalée, la tête en arrière sur ce monte-escalier. Un plan en plus en contrebas qui ne met pas l'ancienne candidate à la présidentielle à son avantage. Il n'en fallait pas plus pour que la machine Twitter s'emballe et pour tourner surtout Valérie Pécresse un petit peu en ridicule. Alors il y a eu des mèmes, plein de choses. Mais
honnêtement, c'est pas bien on parle de personnes à mobilité réduite. Fortement impacté. Mon beau-père qui avait la maladie de Charcot, il avait ce monte-escalier. Et honnêtement, ceux qui se moquent de cette situation où un politique vient pour comprendre.
Le problème,
c'est
pour pallier les pannes d'ascenseur. Et le problème, c'est qu'on cherche des solutions.
C'est nul en tout point, quoi, de son côté comme de l'autre.
Parce qu'il y a des personnes qui ont demandé à changer de logement. Avoir accès à des logements en rez-de-chaussée, etc., ou avec des logements PMR, comme on appelle, et qui ne les ont pas. Alors, on te met un escalier, un truc qui prend trois plombes à monter, mais en réalité, c'est justement parce qu'il y a un manque de fluidité pour passer d'un logement à l'autre.
Pas que ça, simplement, là aussi, l'entretien des ascenseurs, la répartition
des ascenseurs.
Non, mais on attend quand même de Valérie Pécresse. Surtout qu'elle répare les ascenseurs.
On continue, Anaïs.
Qui Jean-Luc Mélenchon a invité à sa marche contre la vie chère le 16 octobre prochain?
Booba.
Ouais, bravo. Booba, le rappeur.
C'est mon meilleur ami.
Ton grand copain, c'est vrai, vous êtes un peu fighté.
C'était samedi soir, les GG, dans la nouvelle émission de Léa Salamé. Quelle époque, on regarde.
Le personnage, il est de notre temps, quoi. Donc plein de contradictions, plein de... Et j'ai eu l'impression qu'il était entré dans une forme de lutte anticapitaliste. Donc je lui dis... Écoutez, plutôt que d'envoyer les gens en meute, c'est pas toujours très au point.
Contre Magali Berda, vous voulez dire?
Ah oui, quoi. C'est pas bon de faire ça. C'est bon. Eh ben, faites venir les gens à la marche le 16 octobre contre la vie chère. Ça nous rendra service.
Voilà. C'est ça.
Donc réponse de Booba sur Twitter. Je n'envoie personne en meute. Les gens ont suivi mon combat qui au départ est personnel car j'ai mis la lumière sur des démons avant de finalement décliner carrément l'invitation de Jean-Luc Mélenchon. Marcher contre la vie chère quand on roule en Lamborghini, c'est compliqué.
Il n'a pas compris la vie de Booba, lui.
C'est quand même assez incroyable.
Il vit en Floride.
Exactement, il vit en Floride.
Pour des raisons fiscales. Hein, et c'est quand même assez incroyable que Jean-Luc Mélenchon...
Joël. Enfin, c'est pas le type anticapitaliste. Il a des marques, c'est un producteur. Il vit en Floride.
Il a tenté de le récupérer politiquement, c'est classique.
Oh là là.
Il est quand même à la tête de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Tout ce que vomit Mélenchon. Et là, il lui dit, viens marcher avec nous, parce que moi, ça va me faire de la pub, il y aura du monde.
Parce qu'il n'est peut-être pas sûr de remplir Mélenchon dans sa marche. Moi, j'y vois plutôt un aveu de faiblesse.
On continue.
Il est là pour
les
pollutions, surtout. Hein.
Alors, on sait que le cannabis, évidemment, est interdit avant de prendre le volant, mais est-ce qu'on a le droit de fumer du CBD avant de conduire?
Oui, je sais pas si c'est du CBD ou de la CBD.
Du CBD.
CBD.
Est-ce qu'on a le droit de fumer du CBD? Oui, s'il n'y a pas de THC, oui.
Eh ben oui, légalement, oui. La consommation de CBD avant de prendre le volant n'est pas pénalisée en France. Le CBD, c'est en fait du cannabis hein, sans THC, donc sans effet psychotrope. Pourtant, des consommateurs se sont vus retirer leur permis à l'issue d'un test salivaire positif au THC. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des traces infimes de THC lorsqu'on fume du CBD. C'est arrivé à plusieurs personnes, plusieurs conducteurs en France. Il y a eu plusieurs témoignages.
Jean Marty, je crois, c'est arrivé.
Vous en prescrivez du CBD ou pas, ou de manière thérapeutique? Il y a plein de boutiques où tu passes. D'ailleurs, on te dit pour calmer vos angoisses, pour vous apaiser avec des traitements un peu lourds, prenez du CBD.
Ça fait partie de l'arsenal thérapeutique actuellement.
Ouais, bien sûr. Et contre le Covid, ça marchait, non?
Qui a déjà essayé?
Quoi, tu cherches absolument à me faire lécher sur Twitter.
Non, mais t'as essayé le CBD comme ça?
Oui, le CBD.
Pas le pétard. Parce que ça, c'est
jamais.
Pas ton genre.
Non.
Pas du tout.
Le jamais avait l'air très sincère.
On continue,
toi,
le dernier.
Qui chantera à la mi-temps de la prochaine finale du Super Bowl?
Rihanna.
Rihanna annonce qu'il a déchaîné les passions et Internet. Pourquoi? Parce que ça fait 7 ans que Rihanna n'a rien sorti, aucun album, qu'elle n'est pas montée sur scène. Donc, elle va être attendue au tourneau.
Au tourneau.
Et puis les GG. Nouvelle campagne de pub RMC sur les réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être vu. Un jeu d'acteurs magnifique de tous les présentateurs de l'antenne dans des petits courts-métrages, on emploie les grands mots. Au casting, Alain Olivier, bien sûr, Apolline de Malherbe, Estelle Denis, mais aussi Vincent Moscato, Gilbert Bribois, Daniel Riolo. Bref, de quoi inspirer notre ami Julien Cazard, l'humoriste chez Rotten sans flamme qui n'a rien loupé de ses petits chefs-d'œuvre. Écoutez, regardez.
Jérôme Rotten, Yann Riolo, Gilbert Bribois, Estelle Denis, Marshall et Truchot, cette super bande de potes a décidé de vous faire profiter de leur talent d'acteur. Vous avez aimé Friends, vous avez adoré How I Met Your Mother. Alors là, ça a piqué. Là, on est plus proche des filles d'à côté. Attention.
Moi là, il y a trop de viande. Vous auriez pas plutôt de steak végétarien?
Ça va pas, non?
Estelle, sois pas borné. C'est bien de changer parfois.
Toi aussi, Jérôme, tu as basculé vegan.
Incroyable.
Si on pouvait m'aider pour les chaises en plastique, s'il vous plaît.
Il y a des chaises en plastique, mais ça met 1000 ans à se biodégrader.
Ouais. Merci, Jamy.
Dans la famille RMC, il y a des hauts et il y a des bas. Énormément de débats.
Alors votre avis, vous aussi, si vous n'avez pas vu cette campagne de pub RMC, vous allez sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram d'RMC et on attend vos commentaires.
Et vous verrez effectivement les spots que l'on a tournés, la nouvelle studio, campagne
c'est
de rentrée d'RMC.
C'était très sympa avec toute la bande d'RMC. Ouais.
C'est un bon moment.
Et c'est vrai que on n'est pas comédiens, quoi, ça s'entend un peu.
Ah mais Estelle, elle a un truc, il faudrait qu'elle fasse du théâtre.
Ouais.
À suivre dans les GG. Merci Anaïs. Dans les GG, la téléconsultation, progrès ou dérive, ce sera le GG 7 et match. On vous attend au 32-16. Et puis on a le à vous de choisir. On vous a proposé deux sujets de discussion. La préparation du budget 2023, Bruno Le Maire qui dit attention, la France est à l'euro près. Ou bien 58% des automobilistes qui ne pourront plus rouler en ville à cause des zones à faible émission. Est-ce qu'il faut supprimer les zones à faible émission? C'est de ce sujet, de rouler en centre-ville avec les zones à faible émission dont vous voulez que nous parlions. Eh bien, rendez-vous au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.